Vous écoutez
RMC.
6h30, tout pile sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à vous tous. Le journal, c'est Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Apolline, bonjour à toutes et à tous. Le parcours du combattant pour trouver du Doliprane pour nos enfants. On vous explique pourquoi ces petites boîtes roses manquent dans les pharmacies. Trop de 20 produits, vente en berne. Les viticulteurs bordelais manifestent ce matin pour demander de l'aide au gouvernement. Et puis Coupe du Monde de football, direction les quarts de finale pour la Croatie et le Brésil.
Alors vous l'avez sûrement constaté si vous êtes parent, trouver du Doliprane pour enfants en pharmacie, ça relève du casse-tête.
Et chercher cette version du médicament sous forme de sirop donne des maux de crâne à beaucoup. Et ça tombe mal puisque l'hiver est là et les maladies qui l'accompagnent aussi. Ce matin, on fait le point pour mieux comprendre cette tension sur les stocks de Doliprane avec vous Romain Houck. Bonjour Romain.
Bonjour.
Alors Romain, pourquoi on manque de Doliprane?
Eh bien d'abord, on en parle depuis plusieurs semaines. Il y a cette triple épidémie qui sévit en France, épidémie de Covid, de bronchiolite, mais aussi de grippe, ce qui fait qu'on consomme beaucoup de paracétamol, en particulier sous sa forme destinée aux enfants. L'Agence du médicament demande d'ailleurs aux Français d'éviter de constituer des stocks. Il y a aussi des tensions sur le verre provoqué par la guerre en Ukraine, verre qui sert à produire les flacons et pour ne rien arranger, depuis environ un mois, les employés de l'usine Sanofi de Lisieux sont entrés en grève pour demander des augmentations de salaire. C'est la seule usine qui produit du Doliprane sur le territoire. Alors, que faire si vous n'en trouvez pas en pharmacie pour votre enfant? Il y a toujours l'Advil pour les moins de 12 ans, tout du moins, encore les Feralgan Med, tous deux en solution buvable, tout du moins en attendant, puisque le ministre de la Santé, François Braun, a assuré fin novembre un retour des stocks dans les semaines qui viennent.
Précision de Romain Houck pour RMC. Merci beaucoup, Romain. Il sera encore une fois l'invité des fêtes de fin d'année. Le Covid, évidemment, les chiffres de contamination qui explosent, tandis que ceux de la vaccination stagnent. L'occasion pour l'exécutif de rappeler que tout le monde peut bénéficier d'une quatrième dose de vaccin. Journée de grève chez RTE, le gestionnaire de réseau de transport de l'électricité dans le pays. Les syndicats demandent une hausse des salaires de 7%. C'est loin des 2% que propose la direction. Nicolas Sarkozy persiste et signe. Il conteste avoir corrompu qui que ce soit. L'ancien président de la République, qui était présent hier au premier jour de son procès en appel dans l'affaire Bismuth, affaire dans laquelle il est soupçonné d'avoir promis un poste à Monaco à un juge en échange d'informations sur un autre dossier. Nicolas Sarkozy qui a pris la parole hier, Lucille Pascanet.
À la barre, l'ancien chef d'État en costume sombre veut défendre son honneur qu'il dit bafoué dans cette affaire. Sa culpabilité, il la conteste, je cite, avec la plus grande force, la peine de 3 ans de prison dont un enferme aussi. Je n'ai jamais corrompu personne. Il balaye ensuite le dossier dos à la salle comble. Une enquête préliminaire trop longue, une accusation de corruption étrange, sans argent versé, sans avantage, sans victime selon lui, et surtout une condamnation sur la base d'un faisceau d'indices. Pour qu'on d'années, il faut des preuves. Où sont-elles? Il n'y en a pas, bouillonne-t-il. Nicolas Sarkozy a aussi évoqué son intention de s'expliquer en détail sur chacune des écoutes téléphoniques entre lui et son co-prévenu Thierry Herzog. Elles seront diffusées cet après-midi pour la première fois depuis le début de l'enquête, il y a 8 ans.
Le youtubeur Norman Tavo a passé la nuit en garde à vue. Il est interrogé sur des faits de corruption, de mineurs et de viols impliquant plusieurs jeunes femmes. L'immigration s'invite à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Un débat, mais sans vote. Une manière pour le gouvernement de préparer le terrain avant la présentation du projet de loi immigration au printemps. L'exécutif qui souhaite que les mesures d'obligation de quitter le territoire soient mieux appliquées. Actuellement, seulement 1 sur 10 est suivie des faits. Autre réforme, cette fois, c'est des retraites. L'intersyndicale qui compte bien se mobiliser contre le texte réuni hier soir. Les syndicats préviennent, la rentrée de janvier s'annonce chaude socialement, ils prévoient des grèves. Les viticulteurs dans les rues de Bordeaux ce matin, baisse de la consommation, hausse des coûts de production, crise du Covid. Les viticulteurs bordelais qui voient rouge, ils peinent à écouler leur stock. Ils se considèrent comme oubliés par le gouvernement. Didier Cousinet est le porte-parole du collectif des viticulteurs de la Gironde.
Le vin est toujours aussi peu cher. Le problème, c'est qu'on ne le vend plus. Il y a eu les crises Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Et le problème à Bordeaux, il y a 1 million d'hectolitres de trop qui est produit tous les ans à Bordeaux. Donc ce 1 million d'hectolitres pèse sur la balance et fait qu'on vend le vin très très peu cher à Bordeaux, voire on ne le vend plus. Donc nous, on demande donc cet arrachage primé, un arrachage volontaire. Ça va servir, comme moi, un retraité qui ne trouve pas preneur de toucher la prime et de reconvertir mes terres en pâturage pour des éleveurs ou comme ça. C'est la seule solution.
Un mot de la situation en Ukraine, à présent, puisque c'est l'image de ces dernières heures. Vladimir Poutine au volant d'une voiture sur le pont de Crimée. Première visite du président russe dans la péninsule annexée depuis le début de l'offensive de la guerre en Ukraine. Donc, ce pont qui relie la Russie à la Crimée, qui a été en partie détruit il y a deux mois après une explosion dont Moscou considère Kiev comme responsable. 6h35 sur RMC, direction Doha.
RMC. Coupe du Monde 2022.
Et à J-4 avant le quart de finale face à l'Angleterre, les Bleus se sont reposés hier, entourés de leur famille. Du repos certes pour les joueurs, mais pour les supporters pas vraiment, puisque pour trouver des places pour le match de samedi, il faut être particulièrement endurant et déterminé, Martin Bourdin.
Où qu'ils aillent depuis dimanche soir, Younes et Souleymane ont les yeux rivés sur leur téléphone portable.
C'est la chasse aux billets, on est sur le site de FIFA en train d'actualiser, etc. C'est vraiment infernal.
À mettre des rêves à 5h du matin, trouver des billets.
Mais même après avoir attendu plus d'une heure pour accéder à la plateforme,
il n'y a pas de place disponible.
Ces deux Parisiens ont bien essayé d'aller au centre de billetterie au cœur de Doha, mais là, un message préenregistré indique à tout le monde qu'il n'y a plus de place en vente. La recherche de billets pour samedi soir passe donc souvent par les réseaux sociaux.
On demande dans tous nos groupes WhatsApp, partout autour de nous d'abord.
Facebook voilà. Aussi.
Sans réussite pour Naïma et Habib, pour le moment, ça les stresse autant que ça les énerve.
Ils disent que tout est plein alors que les stades, il y a plein de places vides. Alors je sais pas si c'est des mecs qui achètent des places et qui essayent désespérément de les revendre ou s'ils viennent pas carrément, comme ça ils s'en foutent. Mais c'est vraiment du gâchis quoi.
Seule solution qu'ils refusent encore pour le moment, le marché noir des places se revendent actuellement 3 fois le prix de départ. Entre 5 et 600 euros pour les premiers prix et donc les moins bonnes places. Anthony n'a pas eu le choix avant-hier pour France-Pologne.
Il était 15h45, le match était à 18h, il me restait 2h15, j'ai acheté la place. 230 euros, plus on y va en avance, plus le prix va être élevé et le vendeur ne sera pas prêt à lâcher parce qu'il n'aura pas la pression.
Moins cher, mais quand même 2 fois le tarif de base du billet.
Le reportage de notre envoyé spécial à Doha, Martin Bourdin. Les résultats d'hier avec la qualification en quart de la Croatie et du Brésil aux dépens du Japon et de la Corée du Sud. Au programme aujourd'hui, Maroc-Espagne à 16h, Portugal-Suisse c'est à 20h, rencontre que vous vivrez évidemment sur RMC Radio officielle du Mondial de Foot.
Et puis le quintet Stéphane, c'est aujourd'hui à Chantilly.
Avec un départ prévu à 13h50, Apolline, je vous donne le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori c'est le 12, Sitcho Boy, leur outsider c'est le numéro 4, Billabong 4. Le 12, le 4, les courses c'est évidemment à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal de Stéphane Genest et c'est déjà Noël. Bah oui, c'est déjà Noël sur RMC à 6h37 en ce 6 décembre. C'est déjà Noël parce qu'à l'occasion des fêtes, on vous offre de nombreux cadeaux. C'est le retour du coffre RMC. Vous connaissez le principe, Charles. Vous êtes spécialiste hein, désormais du coffre. Hein.
Oui, pour jouer au coffre RMC, on envoie le mot coffre par SMS au 732-16. C'est 75 centimes par SMS. Il faut 3 SMS maximum. Et oui, vous êtes inscrit et si vous gagnez, vous gagnez la Nintendo Switch. Mais alors ensuite,
oh là là,
s'ouvre la question.
On ouvre le coffre et là, oui. Et là, il peut y avoir encore une myriade de cadeaux, dont une PS5 ou une PlayStation Classic Mini. Bonne chance à tous.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre dans un instant, je compte sur vous pour me faire remonter vos témoignages. Est-ce que votre pharmacien a des médicaments en rupture de stock? Est-ce que vous avez trouvé un plan B? Vous êtes pharmacien, vous êtes parent, peut-être manquez-vous de Doliprane enfant. Quels sont les produits qui vous manquent et pourquoi? Rendez-vous au 3216, on se retrouve dans un instant.
RMC Police Justice.
Mais avant cela, et comme chaque matin, votre rendez-vous avec le service Police Justice qui a repéré hier cette histoire. 8 personnes arrêtées, accusées d'avoir commis des cambriolages avec l'aide de livreurs de repas à domicile, Vincent Chevalier.
Leur idée était très simple. Avec l'augmentation des livraisons de repas, surtout en Île-de-France, ce réseau a décidé de faire appel à des coursiers. Certains, peu scrupuleux, n'ont pas hésité à donner ou revendre le code d'entrée des immeubles. Selon une source proche du dossier cité par Le Parisien, il existe même une sorte de darknet du code d'immeuble. Au moment de déposer la commande devant la porte ou à l'intérieur de l'appartement, le livreur jetait un coup d'œil, un repérage qui servait ensuite aux voleurs. Argent, bijoux, matériel informatique, sacs. Les complices, en équipe de 3 ou 4, faisaient alors main basse sur ce qu'ils pouvaient trouver. Et une fois le vol commis, pour ne pas se faire repérer, ils repartaient en transport en commun ou en VTC. Au total, 77 cambriolages depuis janvier à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Leur butin s'élèverait à plusieurs centaines de milliers d'euros. 8 personnes ont été interpellées. 8 hommes, la vingtaine, résidents de plusieurs arrondissements parisiens, identifiés par les enquêteurs grâce notamment aux images de vidéosurveillance et les téléphones des suspects. Ils ont tous été mis en examen, 4 placés en détention provisoire, les autres remis en liberté sous contrôle judiciaire.
Le récit de Vincent Chevalier pour RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h41, excellent réveil à vous tous.
C'est votre avis.
C'est votre avis ce matin, témoignage au 32-16, témoignage que je vais vous livrer aussi sur ce manque de médicaments, je vous dis tout. Dimanche, ma fille a une otite, j'ai une ordonnance avec la délivrance normalement de Doliprane enfant en sirop. Je me rends tout simplement à la pharmacie. Première pharmacie, ils n'en ont pas. Ils me disent tout simplement que c'est une rupture de stock, ils ne peuvent rien faire pour moi. Je suis assez surprise parce que c'est vrai que c'est un médicament... très basique hein, qu'on a tous normalement dans notre pharmacie hein, le Doliprane enfant tous les parents qui la nous écoutent rose. Le savent oui. La boîte rose avec la fameuse pipette. Bon, j'ai dans une deuxième pharmacie, tout ça c'est à Paris, et la deuxième pharmacie me dit qu'ils n'en ont pas non plus, mais ils me donnent du Doliprane adulte en sachet, en poudre, en me disant bah vous donnez la moitié à peu près du sachet, donc il y a des alternatives. Je me suis débrouillée. Ce qui m'a frappé le plus, c'est la personne à côté de moi, dans cette deuxième pharmacie, qui, elle, venait chercher le deuxième flacon d'amoxicilline, donc d'antibiotiques pour son enfant. Elle avait fini la première boîte, elle attendait la deuxième boîte. Et là, la pharmacienne lui a dit, bah écoutez, je n'en ai plus, je suis en rupture, je n'ai pas de date de retour de l'amoxicilline. Et donc, la mère de famille, elle est repartie avec son enfant qui a dû s'arrêter au milieu du traitement d'antibiotiques, alors qu'on nous a toujours dit qu'il fallait surtout pas s'arrêter au milieu de l'antibiotique. J'ai tweeté mes aventures, qui a été très largement relayé sur les réseaux sociaux. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est surtout les réactions. Nombreuses réactions d'abord de parents, qui m'ont d'ailleurs très gentiment proposé de me rapporter leur flacon de Doliprane, je les remercie. Mais surtout des réactions aussi politiques, de droite comme de gauche. J'ai eu des messages à la fois de Laurent Wauquiez et de Gérard Filoche, et d'autres députés La France Insoumise. C'est vous dire qu'en effet, c'est aussi une affaire d'abord du quotidien, mais c'est aussi une affaire politique. Alors pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que c'est une inquiétude qui traverse toute la France? Oui, c'est ce que nous dit d'ailleurs le président des pharmaciens de France, qui sera en direct avec nous à 7h10. C'est aussi ce que nous dit Sacha, qui nous appelle au 32-16. Bonjour Sacha.
Oui, bonjour.
Sacha, vous êtes préparateur de commandes et vous êtes dans le Val-de-Marne. Racontez-moi.
Je travaille sur le mine de Rungis.
Ouais.
J'ai un enfant en bas âge qui a 2 ans.
Oui.
Il est souvent malade. Il est atteint de l'asthme asthmatique. Il est asthmatique. Ouais. Donc il a un traitement de fond qui est Flixochide, et en sachant que comme il est souvent malade, on lui prescrit souvent des Doliprane.
Oui.
Malheureusement, c'est introuvable. Ça fait quelques mois que j'arrive pas à trouver de Doliprane, même en suppositoire.
Oui.
Là, tout à l'heure, j'ai été chercher, malheureusement, son traitement.
Oui.
Qui est Doliprane et Flixochide, introuvable. Y compris le Flixochide.
Ah.
Donc, mon fils est asthmatique grave. Ce qui est dommage, c'est que j'arrive pas à trouver du Flixochide, et c'est son traitement primordial.
Donc
c'est
vous redoutez, du coup Sacha, vous redoutez que votre fils tombe malade dans les jours qui viennent.
Il y a 3 semaines, il a été hospitalisé.
Il y a 3 semaines, il a été hospitalisé. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à l'hôpital sur ces pénuries de médicaments, sur ces tensions?
Ils ne nous ont pas parlé.
D'accord.
Pour eux, il y aurait dû avoir du Flixochide et du Doliprane. Malheureusement. Quand on va chercher les médicaments, on n'en trouve pas.
On se rend compte de ça, Sacha, c'est qu'il y a une vraie, pour le coup, c'est très disparate. C'est-à-dire que, en fait, comme c'est pas une pénurie au sens où les usines tournent, simplement elles tournent au ralenti, c'est une multiplicité de facteurs. Il y a à la fois le fait que l'usine qui fabrique du Doliprane en France, qui est à Lisieux, est en grève pour les salaires. Alors, Sanofi dit ça n'a pas d'impact, mais les grévistes, eux, disent oui, la production a ralenti. Le tout, comme vous le dites, dans un moment où il y a à la fois Covid, bronchiolite et évidemment la grippe. Donc il y a une tension, une demande de médicaments, et une tension plus globale aussi sur les matières premières, sur le verre, sur ce qui constitue le médicament. Et ça dépend du coup des pharmacies. C'est-à-dire que vous avez des coins où ils ont encore du stock, et puis d'autres où ils n'ont plus de stock. Sacha, on pense particulièrement à vous, parce que en effet, moi, je vous le dis, depuis dimanche, j'ai eu de multiples offres de parents qui me disent « je vais vous envoyer ce qui me reste de Doliprane ». Sacha, je peux vous le faire parvenir. Vous aurez au moins du Doliprane. En revanche, je n'ai pas de Pixodide, mais de Flixocide. Mais comment est-ce que vous vous ressentez aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes inquiet? Qu'est-ce que vous
dites? Je suis en colère. Inquiet, en colère. Parce que je suis d'accord. Aujourd'hui, la vie, elle est dure. Ils font la grève par rapport à une augmentation de salaire. C'est un fait. Je suis d'accord. Je suis parent. Ils sont peut-être parents. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'un médicament comme ça, c'est primordial.
C'est
quelque chose qu'on peut pas manquer. C'est pas normal qu'on manque ça.
Comment faire ça?
Moi, personnellement, je suis inquiet. Inquiet par rapport à mon fils. Aujourd'hui, c'est compliqué à trouver de la fixotide. J'ai un collègue à moi, il m'a dit, viens, je t'en dépanne. Mais je lui dis, d'accord, tu m'en dépannes et on fait comment pour ton fils? C'est quelque chose qu'on ne doit pas manquer normalement en France.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on voit une certaine solidarité. Sur le plan économique, Emmanuel, on n'a pas d'explication précise. C'est-à-dire que c'est un facteur de plusieurs... effectivement, cette grève a sans doute un impact, même si Sanofi, pour l'instant, dit qu'il n'y a pas d'impact.
Non, il y a des explications. Il faut rappeler que les molécules de ces principaux médicaments, aujourd'hui, sont fabriquées en Asie. Donc, on peut avoir des usines de fabrication du Doliprane en France, mais les principes actifs, les molécules essentielles, elles sont pas fabriquées en France. Et donc vous avez toute une série effectivement de phénomènes qui expliquent ces ruptures. Vous avez d'abord une énorme augmentation de la demande mondiale pour tous ces médicaments.
C'est-à-dire alors c'est aussi ce qui nous explique, c'est-à-dire que parce qu'il y a des pays qui s'ouvrent à ce marché.
En Chine notamment, il y a eu les fermetures liées au Covid, il y a des difficultés d'approvisionnement en matières premières, et puis il faut rappeler aussi, c'est malheureux à dire, mais que la France est le pays européen qui paye le moins cher les médicaments. Et donc, c'est peut-être cynique, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France n'est pas forcément prioritaire.
Mais ça n'est pas dit. C'est-à-dire que Emmanuel, personne ne va expliquer. C'est un choix. C'est un choix économique.
Des labos qui décident d'approvisionner peut-être plus en priorité les pays dans lesquels les médicaments leur rapportent.
Et c'est impossible d'anticiper. C'était impossible d'anticiper parce que ça fait des semaines qu'on nous dit qu'il y aura des tensions sur les médicaments. En gros, depuis cet été, mais c'est aujourd'hui qu'on en ressent vraiment
la
réalité.
On n'est pas sur un choc qui est lié à un problème temporaire. C'est-à-dire qu'il y a une sous-capacité de production mondiale aujourd'hui de ces médicaments qui est structurelle. Et ça va mettre du temps avant de se
réformer. Et il n'y a d'ailleurs pas de date de réapprovisionnement pour notamment le Doliprane enfant. C'est ce que nous racontera tout à l'heure le président de l'Union des pharmaciens de France. Il sera en direct avec nous dans une vingtaine de minutes. Merci Sacha de votre témoignage. Vous nous appelez, peut-être que vous êtes pharmacien ou médecin justement. Dites-nous ce qu'il en est de votre côté. Vous êtes parent. La question aussi qui se pose maintenant, c'est est-ce que vous redoutez de tomber malade? Est-ce que vous redoutez de ne pas pouvoir être bien soigné aujourd'hui en France? Il est 6h49.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Il y aura le portrait du jour, Nicolas.
Oui, c'est Nick Bollettieri. Il vient de disparaître à l'âge de 91 ans. C'était un mythique entraîneur de tennis.
Et puis vos histoires, Charles?
Hier, les Japonais ont perdu au foot, mais ils ont gagné en pâte et croûte.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 6h51 sur RMC et RMC Story. Voici le programme de la suite de la matinale. À 7h10, y a-t-il une pénurie de Doliprane pour enfants? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'en trouver les réponses du pharmacien Pierre-Olivier Barriot? Il sera le témoin du jour dans 20 minutes. Et puis 7h40, le Covid et le rendez-vous manqué de la vaccination. Pourquoi les plus fragiles ne vont plus se faire vacciner? Est-ce que la stratégie vaccinale du gouvernement est mauvaise? Je poserai la question à Alain Fischer. C'est l'ancien monsieur vaccin du gouvernement. C'est lui qui avait piloté la stratégie de vaccination contre le Covid pendant plus de 2 ans. Et puis à 8h30, la députée Europe Écologie Les Verts de Paris, Sandrine Rousseau, qui sera l'invitée du face-à-face sur RMC et BFM TV.
RMC, Apolline Matin.
Le portrait du jour.
Le portrait du jour, Nicolas, c'est celui de Nick Bollettieri, mythique entraîneur de tennis qui vient de disparaître à l'âge de 91 ans.
Oui, mythique parce qu'il avait créé une usine à champions et qu'il a révolutionné son sport. L'académie Nick Bollettieri en Floride a formé des générations de grands joueurs, dont André Agassi, Jim Courier, Jimmy Arias, Monica Seles, Martina Hingis, Maria Sharapova et les deux sœurs Williams, pour ne citer qu'elles. Le point commun de tous ces champions, eh bien, ce sont des cogneurs. Nick Bollettieri aimait les joueurs agressifs qui frappent comme des mules depuis le fond du court. Il a aussi entraîné des joueurs plus techniques et des joueuses plus fines, mais le champion type qui sortait de son académie, c'est par exemple l'Allemand Boris Becker, surnommé Boom Boom, le premier dont le service a dépassé les 200 km/h. Bollettieri lui-même n'a jamais été un grand joueur, c'est surtout un ancien militaire qui a servi dans le corps des marines et chez les parachutistes. Il a fait des études de philo et de droit, il a cherché sa voie un moment, il a joué au football américain et puis il est devenu prof de tennis un peu par hasard. Il donnait des cours à 3 $ de l'heure juste pour gagner sa vie. Mais on a vite découvert qu'il était un super prof, surdoué pour enseigner le geste juste et surtout pour forger le mental. Il se présentait comme un artiste et le Figaro rappelle qu'il aimait bien qu'on l'appelle le Michel-Ange du tennis.
Maria Sharapova.
Exactement, hein, c'est d'elle.
C'est plutôt d'elle que parlait, vous vouliez parler. Un artiste, mais pas toujours très tendre.
Non, ce n'était pas un ancien militaire pour rien. Il prenait le travail et une discipline de fer. Le grand journal américain sportif Sport Illustrated avait fait son portrait en 1980 en titrant « Il fera de votre enfant un champion, mais ce ne sera pas drôle tous les jours ». Et de fait, André Agassi, dans ses mémoires, raconte qu'il garde un souvenir épouvantable de ses jeunes années à l'Académie Boltieri. C'est là qu'il s'est mis à détester le tennis, si bien qu'Agassi a fait une grande carrière, mais en ne prenant jamais aucun plaisir sur le court. Dick Boltieri lui a appris, lui, par contre, a pris beaucoup de plaisir à détecter ses jeunes joueurs et en faire des champions. Il a formé, écoutez bien, 10 numéro 1 mondiaux, qui pour la plupart lui ont rendu hommage hier à l'annonce de sa mort.
Et d'un champion à l'autre, on connaît désormais, Charles, le nom du champion du monde de pâté en croûte.
Les histoires de Charles.
Oui, c'était la 13e édition de ce concours organisé hier à Lyon. Pas pâté en croûte, non. On dit pâté croûte là-bas. Oui, voilà, je parle sous l'œil expert d'Emmanuel de Chypre. Donc j'ai enquêté et révisé toute la nuit. Oui, on parle bien de pâté croûte pour cette tradition très lyonnaise. Le jury avait toute une grille de notation. Je vous donne les critères. La cuisson de la pâte, la tenue de la gelée, la présentation de la tranche, la cuisson des viandes. Les 14 candidats avaient 30 minutes pour préparer leur tranche avec un bon coup de chalumeau à la fin pour bien faire dorer la croûte. Et à ce petit jeu-là, le meilleur n'est pas français,
c'est beau.
Non.
Les images sont très très belles. Hein. Je vous recommande. Ouais. RMC Story, c'est sublime.
Ça donne faim. Et le champion du monde est donc japonais. Il s'appelle Ryutaro Shiomi. Il a devancé un Lyonnais, Jérémy Crozet. Ce qui lui a permis de s'imposer, c'est le fait qu'il n'y avait pas de fioritures autour de son pâté en croûte. Juste la perfection de la cuisson et des assaisonnements. De quoi consoler les Japonais qui, hier, ont perdu en 8e de finale de Coupe du Monde. Oui, mais qui repartent donc avec
le trophée. Qu'est-ce qui est le plus important, j'ai envie de vous dire, Charles? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment de gagner la Coupe du Monde ou de gagner le championnat du pâté croûte?
Il y a un moment où il faut se réveiller. Ça fait au moins 3 ans que ce sont les Japonais. En plus, qui ont des restaurants au Japon. C'est même pas des chefs japonais. C'est ça,
lui, il a un restaurant en France?
Non, il est japonais. Il est installé au Japon, mais il vient juste. Il fait le voyage.
Moi, je veux bien gagner la Coupe du Monde, mais bon, là, faut faire quelque chose sur le pâté croûte, quoi.
Il faut qu'on se réveille. Il nous faut le Mbappé du pâté croûte pour l'année prochaine.
Aux Pays-Bas, Charles, un patron offre toutes leurs courses à ses salariés.
Un patron, Père Noël, pendant tout le mois de décembre, Joris Thunders, c'est son nom, a décidé d'offrir toutes leurs courses à tous ses salariés, supermarchés, boucheries, boulangeries. Les salariés ont reçu chacun un sac à provisions et une petite enveloppe. Dans l'enveloppe, ils devront glisser tous leurs tickets de caisse du mois de décembre. Ensuite, le patron s'engage à leur rembourser l'intégralité de leurs dépenses. Les années précédentes, il leur offrait une bouteille de champagne et un bon repas pour Noël. Mais cette année, les résultats de sa boîte sont excellents. Il a donc décidé de pousser le bouchon de champagne un peu plus loin. Mais alors, combien cette opération va-t-elle lui coûter? Il n'en sait rien. Il n'a fixé aucun plafond, aucune limite. En revanche, il a prévenu ses salariés s'ils sont à peu près raisonnables dans leurs achats. Et on remet ça l'année prochaine.
Oui.
Parce qu'il devrait les inciter à faire attention.
Faire la petite proposition ici,
hein. Je suggère, dès que je sors du studio, voilà.
Surtout juste le ticket de caisse dans l'enveloppe par rapport à la galère que c'est pour faire ses notes de frais.
Ah ouais.
Ça, c'est quand même génial.
Ça pourrait être
moi, je veux bien aussi qu'à chaque fois, on fasse juste le ticket de caisse dans l'enveloppe, c'est parfait. Vrai. Il est 6h57, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On se retrouve dans un instant pour la météo du journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au Stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.